Bonjour, mesdames et messieurs. En préparant ce cours, dont le thème central sera l'analyse de l'œuvre de Victor Hugo, Ma destinée, je suis tombé sur l'un des carnets que je tiens depuis 1964 et sur lesquels j'ai consigné la plupart des sujets développés tout au long des cours et des séminaires que je donne actuellement au Collège de France. À la date du 20 juin 2010, mercredi 8h35, je lis « Lundi, mardi, passé à Londres, exposition Van Gogh. J'ai constaté qu'il était possible de réaliser l'œuvre d'une vie en 3 ans. Rien d'important auparavant, en effet, de même que chez Rimbaud. Un manque de talent touchant, à savoir que l'anatomie existe, que les mains et les pieds sont les plus difficiles à peindre, à rendre, mais il réussit néanmoins à faire oublier les contingences. Van Gogh aspire essentiellement à ne plus être l'artiste déchiré, apatride, sans amis. Gauguin est parti. Vincent est resté, lui, et la paix ne saurait exister pour lui. Il ne s'attarde pas sur le résultat. Dès qu'ils ont peint, il envoie ses tableaux à Théo, son frère. Ne pense qu'à ce qu'il n'est pas parvenu à faire, dans une tension, un cheminement interminable entre l'incapacité due au manque de talent à atteindre un but inaccessible. Doublement inaccessible du fait que cette incapacité est à la fois sociale et humaine, mais aussi professionnel et pectoral, sans compter que ces tableaux sont invendables. Peindre sans jamais toucher le but. Et peu importe que l'or ne ruisselle pas sur les champs de blé, que dans la nuit les galaxies envahissent la Terre, quand les champs qui s'étendent à l'infini luisent comme des panneaux lumineux d'un vert criard. C'est dans cette tension entre le fini et l'infini que le corps du peintre semble écartelé. C'est une toute autre intranquillité que celle de Picasso qui offre, elle, une production presque illimitée, une toute puissance, une sorte de désir d'infinitude. Les artistes ne connaissent pas le repos. Ils ne se disent pas au 7e jour que c'était bien. Comment réconcilier l'œuvre d'art achevée avec l'infinitude de l'être? En ne s'arrêtant jamais, en ne s'attardant pas, en ne pensant pas à l'instar de Faust, reste encore un instant, tu es si beau. Mais en exprimant ce qui se passe, ce qui est de l'art. Que le verbe ne devienne pas chair, qu'il s'en tienne à la désincarnation. Mais non pas comme chez Don Giovanni, qui se répète, qui insiste sur la même chose, qui dresse une liste produisant un mauvais infini, car c'est l'acte qui est essentiel. Tout est dans l'acte. Si l'on prend l'acte en tant que tel, alors la répétition s'abolit. À l'instar du Hollandais volant, il faut tenter de briser le cycle de la répétition. Le son de la dernière lettre qu'il avait en poche le jour où il s'est tué d'un coup de feu et qui me fait songer au poème de Rimbaud, Le dormeur du Val. C'était de Gustave Courbet. L'homme blessé, ça c'est de moi. Un jour à Paris, se sentant atterré par une putain, il l'invita chez lui pour la convertir en quelque sorte. Il s'agissait de sa part d'une provocation à l'égard de sa famille, à laquelle il était par ailleurs très attaché. Les putains, ce sont ces femmes généreuses qui, par leur totale disponibilité, même feinte, se répandent sur le globe telles des ondes sans jamais se poser. De même que l'artiste, elles sont dans la contradiction oscillant entre le processus et le résultat. Dans un même mouvement, elles s'ouvrent toutes pour mieux se refermer. Mon processus de pensée fait que je ne puis m'empêcher de superposer différentes idées appartenant à diverses époques, appliquées comme principe philosophique et système de production. Ainsi, avant d'écrire sur Victor Hugo, j'ai fait un détour par Van Gogh en passant par mon journal. Victor Hugo est-il un romantique ? Le romantisme, compris comme système philosophique, comme attitude relevant d'un choix esthétique autant qu'éthique. Le romantisme, champ d'action de l'artiste d'un point de vue politique, dans sa volonté de s'intéresser au cosmos, d'englober la nature dans le monde humain, de contempler les étoiles, la mer, les champs, autant qu'autrui et soi-même. Le romantisme d'engagement, celui qui pousse l'artiste à montrer un autre chemin hors de la tradition et du conformisme. En cela, Victor Hugo est un romantique. Les romantiques voulaient l'infinitude ontologique de l'être dans le corps que conscrit de l'œuvre d'art et ils y parvinrent d'une certaine manière. Par exemple, Joseph von Eichendorff, dans son poème « Le soir », où la pensée, si ce n'est l'âme, parcourt le monde le soir, puis revient comme deux droites parallèles qui se rejoignent à l'infini ou comme deux droites infinies qui réapparaissent de l'autre côté. Comment puis-je, en tant que peintre, admettre la matérialité, la finitude d'un tableau tout en décelant en lui l'infinitude de l'être ? Cette notion d'infinitude me fait songer à l'œuvre de Volta de Maria au Vertical Earth Kilometer. On a vu ça dans une autre conférence, on a eu le photo. Quand je suis proche du tableau, se présente une structure abstraite, sorte de système moléculaire qui devient une composition singulière aboutie quand on s'en éloigne pour en avoir une vue d'ensemble. Il s'opère d'une inversion de sens puisque, quand on regarde l'ensemble, comme lorsqu'en survolant la Terre, on ne voit qu'une succession de plans géologiques, tandis qu'en pénétrant à l'intérieur, en s'approchant au plus près de l'image, elle devient abstraction. Alors qu'il ne s'agit ni de l'un, ni de l'autre, ni du proche, ni du lointain, mais d'un va-et-vient, d'un tremblement entre les deux. Une énorme vague emplit la feuille et, avant même que l'écume ait eu le temps d'atteindre le rivage avec la vague, le vent l'a chassé vers l'horizon, vers l'infini. Ma destinée. Dans ce la-vie, Victor Hugo inscrit sa vie, son destin de poète dans l'éternité. Il s'inscrit lui-même dans le tableau du cosmos à la manière dont les traces de pas se dessinent sur le sable, affectant une position inexplicable au regard de l'infini, offrant un grand écart entre pathos romantique et iconoclasme. Une fois encore, il s'agit là de l'opposition insoluble entre figuration et abstraction. J'aimerais pouvoir un jour apposer la dernière couche de peintre sur une toile déjà peinte, puis reculer avant de disparaître. Tout comme il est interdit aux Juifs de prononcer le nom de leur Dieu, alors que cet appel désespéré vers un Dieu réel et tangible résonne depuis des siècles. L'artiste se débat tel une grenouille dans un pot de lait qui essaie d'en atteindre le bord, l'artiste qui est passé par-dessus le bord de la réalité. L'artiste tente également d'attraper les étincelles de lumière prisonnières du chaos terrestre afin de les porter en d'autres sphères, de sorte que la Terre, une fois dépourvue des particules de lumière qui s'y étaient dispersées, soit appréhendée de toute sa noirceur. Je rejoins la pensée de Valentin selon laquelle, suivant en cela le manichéisme, il faut extraire les étincelles de lumière de la Terre pour les monter dans les hauteurs et laisser la Terre sans aucun soleil intérieur, sans aucune lumière dans les ténèbres, afin qu'elle périsse. Alors on voit ici une petite vitrine, et il y a la Terre, et il y a une construction qui porte les étincelles de la Terre vers le haut. Une courroie. Une roue à godet, là. Revenons au poème « Ma destinée ». Victor Hugo dessine une vague à l'instant précis où elle va déferler. Moment magique créé pour une seconde logique, un espace vide, un néant impossible, le calme dans la mer démentée. Nous nous assaillons à l'intérieur de ce vide et méditons sur le commencement, sur le moment où tout était possible, comme dans l'espace vide décrit par le kabbaliste Isaac Luria et que Dieu abandonna afin que le monde puisse advenir. Or, cet espace vide n'existe presque pas, il disparaît à peine formé. C'est une expérience que nous avons tous vécue en nageant dans la mer démentée. Quand, pris dans le rouleau d'une déferlante, nous perdons le sens de l'orientation, ne sachant plus où sont le haut ou le bas, et le sol se dérobant sous nos pieds, nous sommes comme pris dans le tohu wabohu, le chaos dont sortit le cosmos. Mais l'espace vide est très vite à nouveau plein, plein de murmures, de balbutiements, et puis à l'espace vide correspond toujours son contraire. J'ai toujours été fasciné par les espaces à l'abandon, par les usines désaffectées, claustrophobes qui continuent d'être emplis de murmures et d'empreintes des ouvriers qui y travaillèrent. J'y décèle des similitudes avec mes tableaux quand ils semblent enfin, après avoir été couverts de boue et d'eau, recouvrer la paix, bien qu'ils portent encore en eux les traces du désespoir, de l'effort, de l'échec, et dont la surface n'est que le reflet des guerres perdues. Un véritable champ de bataille. La vague, sans espace vide, disparaît à nouveau dans un perpétuel recommencement. Mais un recommencement qui laisse des traces, comme celle de l'œuvre d'art à laquelle est confiée la méditation entre le matériel et l'infini. Écoutons Victor Hugo. Ô Seigneur, vous avez emporté dans votre ombre, ainsi comme un tourbillon, tout ce qui m'était cher. Je regardais ma joie, elle s'était effacée, hélas, comme le pli d'une onde sur la mer. En lisant ces vers d'Hugo aujourd'hui, je les perçois différemment que lorsque, dans ma jeunesse, je les apprenais par cœur. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ce phénomène lors du premier cours consacré au poème de Rimbaud, Marine. À cette époque, j'étais davantage attiré par le pathos. En plus, le poème était creux, plus il était vide de son sens, telle la vague prête à se briser dans le dessin de Hugo, et plus je le trouvais beau. L'île qui a accueilli l'exil de Victor Hugo représentait pour moi une tribune du haut de laquelle il s'adressait non pas aux hommes, mais à l'humanité. Un autre poème me transportait alors Waterloo. Waterloo, Waterloo, monde plein, et la terre tremble encore d'avoir vu la fuite des géants. C'est à ce moment-là que la fuite des géants mit la terre en mouvement pour toujours. La défaite de la Grande Armée, cet événement inimaginable, en généra un autre bien plus inimaginable encore, de l'ordre du séisme continu, alors que le rideau du temple de Jérusalem ne se déchire qu'une seule fois, puis le calme revint. Il s'agit là d'une concordance de temps entre le destin d'une nation et la géologie. En effet, le moment que celle-là, le destin de la Grande Armée, fut étroitement lié à un temps géologique. Il est désormais difficile de trouver ces paysages intacts, des splendeurs parmi ce qu'il est convenu d'appeler les beautés de la nature. Le paysage serait-il devenu un réceptacle pour l'histoire ? Deviendrait-il lui-même sujet, réagissant en tant que tel à la moindre provocation, frissonnant et tremblant comme indifférent aux appels des hommes ? Autrefois, je percevais dans les poèmes de Victor Hugo la plainte de l'éphémère. Ainsi, dans son poème « Tristesse d'Olympe », il se promène sur les sentiers où il accompagnait son ami, regrettant que la nature n'ait gardé aucun souvenir de son passage. Voici un tableau que j'ai peint en me ressouvenant de ce poème. Aujourd'hui, j'irai certainement plus loin dans l'interprétation. Peut-être brosserai-je le poème dans le sens contraire du poil, car il se peut que le poème contienne quelque chose que le poète ne percevait pas. Je dirais qu'il ne s'agissait pas tant d'un deuil individuel de l'éphémère, non plus de l'aspiration vers ce qui n'est pas tangible, n'allant ni dans le sens du passé ni dans celui du présent. Pas davantage d'un pressentiment qui ne tiendrait compte que du processus et non pas du résultat, mais de la tentative de réunir l'œuvre finie avec l'infini. Ce dessin pour titre « Ma destinée » et le navire posé sur la crête de la vague semble mener sa propre existence, matérialiser en lui le seul événement menaçant. Nous pouvons tout aussi bien cependant nous représenter ce dessin sans le bateau. Il prendrait alors un sens plus général, un sens plus philosophique qui donnerait un autre éclairage au dessin. Alors nous avons supprimé le bateau. C'est permis. En musique, on a sans cesse recours aux variations, aux remaniement d'une composition déjà existante. Lorsque je visite le Louvre, il m'arrive de vouloir remanier certains tableaux. Sur un certain polyptyque de Le Sueur, notamment, j'aimerais ajouter une couche plus sombre sur les couleurs très vives, un peu pop art. Je suis persuadé que les couleurs en dessous révéleraient alors des nuances insoupçonnées dont l'effet serait bien plus mystérieux. Si le dessin de Victor Hugo était débarrassé de ce bateau anecdotique, la vague ne représenterait plus alors qu'une destinée susceptible d'entraîner un éventuel navire dans un hypothétique naufrage. La destinée individuelle se changeait en destin cosmique. C'est dans le fini que nous trouvons l'infini. On peut voir ici non pas le résultat, mais l'acte en soi qui a donné naissance à l'œuvre d'art. Ce n'est rien, cela advient. La forme seule advient. L'image n'est pas l'illustration d'idées platoniciennes, elle représente un événement permanent, de même que les vagues qui, sans cesse, déferlent sur le rivage. Le fini n'est plus une frontière, par sa répétition, il devient acte. Or, c'est précisément ce qu'a représenté Monet dans ses tableaux de la maturité. L'objet ayant cessé d'être important à ses yeux au cours de sa carrière, Claude Monet s'est peu à peu éloigné de la réalité de la représentation photographique qu'il ne considérait plus comme vraiment palpable. Quand il entreprit de peindre des meules de foin, il pensa que deux toiles suffiraient, une par beau temps, l'autre par temps ouvert. Mais à peine avait-il commencé le premier tableau par temps ensoleillé que la lumière se modifia, si bien que deux tableaux ne suffirent plus. Pour la simple raison qu'il souhaita représenter une impression vraie, spécifique à un moment donné, et non pas peindre un tableau qui résumerait à lui seul une variété d'impressions. C'est pourquoi il a peint divers tableaux d'un même objet et donné ainsi à voir une vision d'ensemble de la nature par l'addition de différents moments. À l'inverse de la méthode plus scientifique de Seurat, duquel, soit dit en passant, j'aimerais reprendre certains tableaux aussi, Monet avait confiance de l'aspect paradoxal de sa méthode, du fait même qu'il voulait circonscrire un processus fugitif en une forme fixe. Il expliquait à Geoffroy son désespoir de voir le soleil se coucher si tôt en cette période de l'année, qu'il ne pouvait peindre à ce rythme et se voyait souvent contraint de terminer le tableau à l'atelier. À la fin de sa vie, certains tableaux de Nymphéas attendirent plusieurs années avant d'être achevés. Il est intéressant d'apprendre qu'il arrivait à Monet de terminer ses tableaux à l'atelier, car la grande invention de l'impressionniste n'était pas de peindre sur le motif, en l'occurrence la nature en plein air donc, abandonnant l'atelier et les esquisses préalables. C'est pourquoi plusieurs tableaux de même format et représentant des meules de foin ne sont plus perçus comme des objets autonomes ou des réalités séparées. Leur essence se situe dans l'intervalle, dans le passage d'un tableau à l'autre. Monet faisait donc marche arrière en revenant à l'atelier, ce qui nous autorise à dire qu'il est allé au-delà de l'impressionnisme, ses tableaux devenant abstraits ou, plus précisément, demeurant sur cette ligne incertaine entre l'abstraction et la figuration, ce qui pourrait expliquer l'enthousiasme de Kandinsky pour les meules de foin qu'il découvrit à Moscou. Je constate depuis la leçon inaugurale les difficultés rencontrées à décrire une œuvre d'art qui, par nature, est en constante mutation. L'œuvre d'art en tant qu'action s'étend et non pas création aboutie. Dans la contemplation d'une œuvre, tout comme dans sa réalisation se produisent des moments aussi fugaces que le souffle du vent et qui disparaissent aussi promptement que l'écume sur la crête de la vague du dessin de Victor Hugo. Il arrive parfois qu'il y ait convergence entre les moments du passé et ceux du présent, qu'ils se rencontrent et que l'on détecte ce calme qui gît dans le creux de la vague avant qu'elle ne déferle. Venant du passé, mais au fond davantage que le passé, ces moments appartiennent tout aussi bien au passé qu'au présent, et ce qu'ils génèrent est des plus importants. J'ai relevé chez Proust, dans un passage du temps retrouvé, une transcription du processus de la naissance de l'œuvre si difficile à décrire. L'auteur y évoque quelle fut sa joie après une longue période de déception et de doute quant à sa vocation d'écrivain, lorsqu'il connut soudain le bonheur de se sentir artiste et de commencer une œuvre qui, à son insu, était entamée depuis longtemps déjà. Lisons. Tant de fois au cours de ma vie, la réalité m'avait déçu parce qu'au moment où je l'apercevais, mon imagination, qui était mon seul organe pour jouir de la beauté, ne pouvait s'appliquer à elle en vertu de la loi inévitable qui veut qu'on ne puisse imaginer que ce qui est absent. Et voici que, soudain, l'effet de cette dure loi s'était trouvé neutralisé, suspendu, par un expédient merveilleux de la nature qui avait fait miroiter une sensation, bruit de la fourchette et du marteau, même titre de livre, etc., à la fois dans le passé, ce que permettait à mon imagination de la goûter, et dans le présent où l'ébranlement effectif de mes sens par le bruit, le contact du linge, etc., avait ajouté au rêve de l'imagination ce dont ils sont habituellement dépourvus, l'idée d'existence. Les idées, la prise de conscience, viennent à l'esprit du narrateur lorsqu'il se rend dans la nouvelle demeure des Gourmantes, où se donne en concert. En chemin, la matinée perd de son importance tant et si bien qu'il arrive en retard alors que le concert s'achève et il doit attendre dans la bibliothèque que les portes de salon s'ouvrent et le libèrent. En route, il avait demandé à plusieurs reprises que l'on arrêtât la voiture. Il avait rencontré diverses personnes et quelques événements apparemment anodins avaient fait du trajet un trajet initiatique. Le souvenir, par exemple, du goût d'une madeleine que l'on plonge dans le thé, créant une symbiose avec l'œuvre d'un poète, Vinteuil, ou encore le bruit de la cuillère qui heurte la tasse et qui le rappelle le marteau qui frappe les roues du train lorsqu'il s'arrête en allant vers Cambrai, le replongeant dans l'enfance. Je pense également à la manière dont il associe les pavés de la cour de l'hôtel de Guermantes au sol de la place Saint-Marc à Venise, au tracé et la matière pourtant si différents. Cependant, la comparaison, l'éclair qui relie d'une étrange façon le passé présent le conduit à s'interroger sur la difficulté à décrire Venise. Sa raison, toujours en éveil, et son œil généralement des plus perspicaces, ne lui avait pourtant procuré aucun plaisir, était resté infécond. Mais le fait d'entrevoir le passé dans le présent, et qui plus est de découvrir un troisième élément dans la rencontre des deux précédents, lui procure une sensation de délivrance. Je cite. Mais c'est quelquefois au moment où tout nous semble perdu que l'avertissement arrive qui peut nous sauver. On a frappé à toutes les portes qui ne donnent sur rien. Et la seule par où on peut entrer et qu'on aurait cherché en vain pendant 5 ans, on y heurte sans le savoir et elle s'ouvre. Retrouver le temps perdu signifie non pas se ressouvenir du passé avec nostalgie ou pratiquer une quelconque analyse, mais générer des étincelles avec le matériau présent avant de surpasser le passé et le présent, de même que la fusion nucléaire produit toute autre chose qui, une fois l'impulsion donnée, peut se reproduire de manière continue en dehors de tout autre apport d'énergie. Dans cet ordre d'idées, on peut considérer que Jules Michelet n'est pas un conteur d'histoires décrivant le passé, mais les images qu'il évoque, je pense entre autres à la couleur et à la consistance du sang des rennes, font de l'histoire une matière à partir de laquelle il filtre l'essence des choses et les libère du temps, les libère au point que plus rien n'est à craindre qu'à l'avenir. Michelet ne se borne pas à retracer l'histoire à travers le seul prisme de l'intellect, cette histoire qui, chez d'autres, est livrée toute desséchée. Proust exprime ça de cette façon. « Mais qu'un bruit, qu'une odeur, déjà entendue et respirée jadis, le soit de nouveau à la fois dans le présent et dans le passé, réel sans être actuel. » Idiot sans être abstrait, aussitôt l'essence permanente et habituellement cachée des choses qui se trouvent libérées, et notre vrai moi qui parfois depuis longtemps semblait mort, mais ne l'était pas entièrement, s'éveille, s'anime, etc. Ça continue. Il y a des correspondances certaines entre les meules de foin de Claude Monet et la littérature de Marcel Proust. Chez Proust, comme chez Monet, le sujet n'est pas ce que l'on croit d'abord, ce qu'on l'on croit d'abord reconnaître. À titre d'exemple, Kandinsky n'a pas vu les meules de foin en tant que telles, quand au sujet du roman chez Proust, il consiste non pas en un déroulement linéaire d'événements, mais en la superposition de faits à divers niveaux de lecture. De même chez Monet, il s'agit non pas de représenter les différents états des meules de foin sous diverses lumières, mais l'espace intermédiaire qui correspond au passage d'un état à l'autre. Je cite Proust à nouveau. Un nuage, un triangle, un clocher, une fleur, un caillou, en sentant qu'il y avait peut-être sous ces signes quelque chose de tout autre que je devais tâcher de découvrir, une pensée qu'il traduisait à la façon de ces caractères hiéroglyphes qu'on croirait représenter seulement des objets matériels. Sans doute, ce déchiffrage était difficile, mais seul il donnait quelques vérités à lire. Car les vérités que l'intelligence saisit directement à claire voix dans le monde de la pleine lumière ont quelque chose de moins profond, de moins nécessaire que celle que la vie nous a malgré nous communiquées, ont une impression matérielle parce qu'elle est entrée par nos sens, mais dont nous pouvons dégager l'esprit. Lors d'un autre cours, j'ai évoqué le véritable bonheur qui procure la surprise. Récompensé à tous nos efforts après les détours souvent pénibles mais nécessaires. Cette surprise, qui se situe parfois sur deux ou trois niveaux différents, où se croise et se produit une rencontre inéluctable. Proust parle de la joie du réel retrouvé. J'aimerais maintenant vous parler d'un événement me concernant survenu en 1984 lors de mon premier séjour à Jérusalem et qui est en rapport avec le temps retrouvé. Cela m'est revenu en préparant ce cours. Je me rendais à Jérusalem, qui sollicita le soutien d'Axel Springer pour la première fois, y accompagnant une exposition qui se tenait à l'Israel Museum après avoir été montrée à Düsseldorf et au musée d'art moderne de la ville de Paris. Le gouvernement allemand avait émis les plus grandes réserves à ce que mon œuvre soit exposée en Israël. Seul le fervent engagement de Martin Weil, directeur du musée de Jérusalem, parvint à vaincre leur réticence. Par ailleurs, l'analyse de mon travail effectuée par la diaspora juive new-yorkaise qui avait fui les persécutions nazies, autrement dit, ma tentative d'évoquer la mémoire d'une perte incommensurable, de l'extraordinaire symbiose entre les pensées allemandes et juives, n'était pas encore parvenue jusqu'aux Allemands. Mais revenons à l'essentiel, à ce curieux phénomène de concordance de temps entre le présent et l'avenir. J'observais à la fenêtre de l'hôtel King David, à droite, la porte du désert qui semblait s'embraser dans une prodigieuse lueur crépusculaire, et à gauche, la ville, ceinte d'un mur de pierre orné de coupoles dorées des mosquées. Au-delà des remparts, le mont des Oliviers. À cet instant précis, ma conscience n'était pas seulement reliée à un lieu qui me semblait familier, bien que je le découvrisse pour la première fois, qui allait de soi, car la ville de Jérusalem fait partie de ma culture, de notre culture. La Jérusalem céleste n'est-elle pas pour les chrétiens la terre promise, la terre d'utopie à laquelle nous aspirons? Ce n'était donc pas uniquement cet aspect-là des choses qui me fascinait, car la prose de Proust relève plutôt de l'intellect et de la rémémoration d'un temps perdu, alors que les impressions que je viens d'évoquer étaient, elles, de l'ordre de l'émotionnel. Elles ne touchaient pas encore à l'essence des choses, à ce petit quantum de temps supplémentaire. J'eus de nouveau cette impression un peu plus tard, alors que je faisais le tour de la ville, le regard toujours fixé sur les remparts et au-delà sur le mont des Oliviers. Il y a en Forêt-Noire un village dans lequel vivait un membre de ma famille, un instituteur que j'appréciais beaucoup et auquel, dans mon enfance, je rendais souvent visite. Derrière ma maison se trouvait une montagne nommée Ulberg, alors Mont des Oliviers. Cela n'avait naturellement rien à voir avec le Mont des Oliviers de Jérusalem. Elle avait été ainsi dénommée autrefois par les autochtones des paysans catholiques. C'était de fait une colline qui descendait en pente douce et d'où l'on avait une vue dégagée sur les sombres forêts de sapins qui s'étendaient jusqu'à l'horizon, formant des ondulations. Exactement le contraire de l'autre mont des Oliviers que je contemplais depuis la ville céleste sur le balcon de l'hôtel, s'enfonçait dans la nuit. Revenons maintenant à ce passage de temps retrouvé dans lequel Proust évoque, au moment où il s'écarte pour laisser passer une voiture, le pavage de la cour des Garmentès, dont l'image se superpose un souvenir des pavés de la basilique Saint-Marc à Venise. Tout comme le mont des Oliviers en Forêt-Noire n'a rien de commun avec celui de Jérusalem, le sol de la cour des Garmentès n'a objectivement pas le même aspect que celui de Saint-Marc. Mais dès l'instant où l'écrivain traverse la cour des Garmentès, la fusion des deux lieux s'opère, faisant concorder le présent avec le passé. Le choc provoqué par l'association des deux monts des Oliviers m'est toujours resté à l'esprit, m'apportant une énergie que rien ne saurait freiner et dont je m'alimente en travaillant. La conséquence directe de cet événement fut que je me mis à étudier la Kabbalah en me plongeant dans les écrits de Gershom Scholem et d'Isaac Luria. J'entrepris alors de transposer en images des actes réputés impossibles de rendre visibles. Une de ces tentatives fut présentée à la chapelle de la Salpêtrière en septembre 2000, où j'essayais de mettre en écho la mystique juive avec les arts en plein centre d'une église chrétienne. Faible écho, certes, de ce que j'avais vécu lors de mon premier voyage à Jérusalem, mais ce fut une de ces tentatives, comme toujours vouées à l'échec, de réunir physiquement, en l'occurrence dans une exposition, les deux moitiés d'une culture brutalement séparée par l'histoire. Dans ces tableaux, j'ai tenté de représenter l'irréprésentable, à savoir ce qui m'avait tant atterré dans la mystique juive depuis mon voyage à Jérusalem. Difficile exploit, en effet, que de mettre en image des idées aussi complexes et subtiles que le Tzimtzum ou le Tikkun. Sans compter le thème ancestral de Moïse et Aaron, souvenez-vous, Moïse descend de la montagne après s'être efforcé de graver le décalogue dans la pierre et, entre autres, le commandement « Tu ne feras point d'image ». Il remarque alors que Aaron vient de sculpter un veau d'or pour le peuple. De rage, il jette les tablettes qui se brisent en mille morceaux et s'en retourne sur la montagne. Cette révolution théologicienne abstraite entreprise par Moïse s'oppose à la conception d'Aaron, davantage tournée vers le peuple et vers la transmission. Dès lors, la représentation de l'indicible, du divin, vit de l'interdit, du refus de l'image. Forme d'iconoclasme devenue aujourd'hui une des composantes des arts plastiques, l'art vit de cet interdit. Il est des choses irréprésentables qui possèdent néanmoins une présence. C'est ce que Monet voulait montrer dans ses meules de foin, c'est-à-dire le temps qui s'écoule, la coïncidence, la coexistence du présent et du passé. L'essence même des choses, comme le disait Proust, qui n'est pas visible dans une meule de foin en tant qu'objet. Cette essence des choses qui se trouve entre les divers tableaux de la série. L'instant où Proust devient l'artiste au terme d'une longue période de doute n'est pas associé à la réorganisation d'un souvenir défini, mais se situe dans l'instantanéité de l'éclair difficile à appréhender et qui échappe à toute représentation, par exemple quand il trempe la Madeleine dans le thé ou quand il marche sur les pavés de la cour des Gourmantes tout en ayant les pavés de la place Saint-Marc en tête. Ce n'est ni l'évocation du sol de Venise ni celle de la cour des Gourmantes qui l'intéresse, mais ce qui se déroule entre qui se déroule dans l'entre-deux. La querelle des iconoclastes, qui perdure depuis des siècles, se révèle au grand jour dans l'art moderne, non pas comme phénomène externe, mais plutôt comme manifestation parfois inhérente à l'image, dont les œuvres de Barnett Newman et de Malevich sont de parfaites illustrations. Ce que je veux dire ici n'apparaît plus sur la peinture de Newman, alors qu'en réalité il s'agit bien de cela, de la représentation invisible du combat entre Moïse et Aaron. Aaron, en représentant la théologie positive, désire exprimer quelque chose tel le veau d'or qui incarne le divin, le divin. Moïse, quant à lui, et les théologiens en ex negativo, proclamant tout ce que Dieu n'est pas, querelle qui se poursuit dans les diverses interprétations de l'eucharistie avec, d'une part, les catholiques qui affirment « Hoc est enim corpus meum », ça, c'est mon corps, et les protestants qui disent « Cela signifie le corps du Christ ». J'ai encore en mémoire le souvenir de ma première communion. En recevant l'hostie, je fus profondément déçu que rien ne se passe. La journée allait son cours habituel sans que rien n'advienne. Cependant, il n'y avait rien d'étonnant à cela. Je n'étais pas encore artiste et n'avais pas connu l'expérience proustienne de la Madeleine. De fait, je commis alors l'erreur d'attendre que l'illumination provienne de l'extérieur au lieu de la chercher en moi, là où tout était en œuvre dès le début. Les moyens d'assimiler la querelle entre Moïse et Aaron m'ont été donnés plus tard, querelle qui porte en elle une dualité paradoxale, construction, destruction, apparition, disparition, et que Ingeborg Bachmann traduit si bien dans son poème « Un désordre, hommage au soleil ». C'est alors que je pris conscience de cette dualité. Il arrive souvent que rien ne subsiste, que l'on ne parvienne pas à passer d'un pôle à l'autre, parce qu'il est toujours nécessaire que subsiste un résidu. En observant ces images, on peut deviner l'état d'esprit qui était le mien il y a une trentaine d'années lorsque je représentais l'Allemagne à la Biennale de Venise. Le catalogue de la Biennale comptait 4 chapitres, tous ayant attrait à l'iconoclasme. Le premier, Verbrennen, calcin, ça veut dire calciner, est une idée exprimée dans le livre Cautérisation du district de Buchen. Pour concrétiser cette idée, j'ai coupé un certain nombre de mes tableaux au format des pages du futur livre, puis je les ai fait se consumer sur le poêle de l'atelier, avant de les relier. Une autre forme d'anéantissement correspond à verholzen, ça veut dire lignifier. Regardons ce livre sur lequel est collé un livre ancien de portraits photographiques de paysans que j'ai recopié en les lignifiant. Enfin, les deux autres chapitres était consacré à versenken, ça veut dire immerger, et versanden, ça veut dire ensabler. À cette époque déjà, j'étais pris au paradoxe qui veut que l'artiste soit iconoclaste. Les exemples de ce combat sont nombreux dans l'histoire de l'art récente. Mais revenons au avis de Victor Hugo. Si nous nous en sommes écartés, nous n'en perdons pas le fil pour autant. Il se peut que cela vous semble tiré par les cheveux, mais il se trouve que la vague sur le point de déferler, dont nous avons effacé le navire posé sur la crête, eh bien cet événement qui ne dure guère plus d'une seconde logique, cet intervalle de la création d'un espace creux nous a conduit à l'essence même des choses. Le pathos de Victor Hugo, sa posture majestueuse et son acte artistique se résument en une laque qui se craquelle, un vernis sur fond granuleux. De la même façon que les fantastiques couleurs de Matisse ne sont que consolation, une berceuse désespérée au soir d'une histoire atroce, tout comme les affirmations de Warhol ne sont qu'une réplique cynique au fétichisme de l'univers marchand. Nous l'avons vu, Monet ne s'intéresse pas au sujet, aux meules de foin ou aux vues de Londres, ni même au rendu photographique d'un objet, mais la surface qui le montre n'a rien de superficiel. Dans la série des cathédrales de Rouen, il répète le même motif, mais sous plusieurs éclairages à divers moments de la journée. En recourant à ce principe sériel, il ne s'intéresse plus à l'objet en tant que tel, mais, comme pour les meules, à ce qu'il y a entre, à ce qui se situe entre les diverses surfaces, à ce qui évolue durant la réalisation de chaque vue pendant le temps du travail. On peut dès lors imaginer que ce qui intéresse Monet n'est autre que le chemin parcouru d'un tableau à l'autre. C'est au fond le processus et non le résultat qui est essentiel pour lui. L'obscurité du gouffre formé par la vague avant de se briser me rappelle les autoportraits tardifs de Rembrandt. Ce sont les yeux qui, en premier lieu, retiennent l'attention du spectateur avec ses ombres cavitées d'une profondeur insondable. Et puis, les rides qui jouent autour de la cavité formée par les orbites, comme une descente vertigineuse vers un microcosme individuel qui, dans le même mouvement, est ascension dans le cosmos. Je pense que l'exercice de l'autoportrait chez Rembrandt était de l'ordre du journal, un journal intime destiné à retenir le temps. Le grand nombre de ces autoportraits en témoigne, nous pouvons suivre ces transformations au fil des ans. Outre son caractère qui se révèle de tableau en tableau, ce sont ses yeux qui toujours m'ont fasciné. J'y vois comme des trous noirs identiques aux trous noirs en astronomie et, bien évidemment, aux creux noirs de la vague déferlante de la vie ma destinée. Merci.